Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1286 en ce samedi 5 juillet. J'espère que tout le monde va bien. Toulouse actuelle avec un petit œil dans le rétro, chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues sur Radio 666. Dans ce 1286e numéro en première heure, le nouvel album du mois signé Andrew Duncanson featuring Michael Peloquin qui s'intitule California Trap, enregistré à San Jose chez Kid Anderson. Ce fabuleux album a déjà eu de multiples passages il y a 2 semaines à l'occasion de l'interview des 2 protagonistes. Une interview à écouter en VO ou traduite en français. Toutes les reliefs sont bien sûr disponibles sur le site de l'émission bluesradio.fr. Vous découvrirez quelques nouveautés made in France avec le volet Blues Rock Soul de quelques-uns de ses meilleurs représentants, Jesse Lee and the Alchemist, Emerald Moon et Pacom Rotundo. Chicago. C'est le premier samedi du mois, alors Beatles Song Story revient avec son 58e numéro, animé par Jackie Emery. C'est Golden Slumbers, une partie du medley label Hall qui sera traitée aujourd'hui avec moult anecdotes et une reprise étonnante de Phil Collins. Dans la rubrique Les Incontournables, Sandra Sanoner vous ramènera en 1992 avec le mythique Unplugged d'Eric Clapton et sa reprise Rolling and Tumbling, empruntée au répertoire de Lynn Wolf et popularisée par Muddy Waters. On démarre tout de suite avec Andrew Duncanson featuring Michael Peloquin, ça s'appelle California Trap. California Trap, le titre album Andrew Dankinson et Michael Peloquin, c'est le disque du mois pour Sweet Home Chicago. On y va pour nos News Friends avec Jesse Lee and the Alchemist. C'est leur tout nouvel album chez Absilon, il s'appelle Legacy. Voici While I Feel. Jesse Lee and the Alchemist, What I Feel, Jesse Lee, présente cette semaine sur le festival Cognac Blues Passion. Voici maintenant un des nouveaux projets, notamment du guitariste Michal Benjeloun avec le groupe Emerald Moon. C'est une chanteuse, Vanessa Di Mauro, qui est à sa tête. Emerald Moon, l'album s'appelle The Sky's the Limit. Et voici un extrait tout de suite, ça s'appelle Bad Mood. C'est une nouveauté dans Sweet Home Chicago.
I'm about to go through the devil's
Emerald Mood avec Vanessa Di Mauro au chant, c'était le titre Bad Mood, extrait de The Sky's The Limit. Pour terminer cette séquence News Friends, voici Pacom Rotondo dans son dernier effort qui s'appelle Crimson Reverie. Voici For What It's Worth, emprunté au répertoire de Buffalo Springfield. On est en 2025 et non pas en 1966.
Something happened in the air, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. The lines being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds, getting so much resistance from behind. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on down. When you are always afraid, step out of line, the men come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Children, what's that sound? Everybody look what's going on.
For What It's Worth, vous connaissez tous la version de Buffalo Springfield, c'était celle de Pacom Rotondo dans son tout nouvel album Crimson Reverie. Voici le 58e Beatles Song Story avec Jackie Emery. Beatles Sanctuary numéro 58 avec Jackie Emery. Salut Jackie, tu vas bien?
Oui, ça va. Oui.
Bon, on est de plein pied dans l'été maintenant, ça y est, ça va une vitesse folle ces épisodes, c'est hallucinant.
Ça fond, ça.
Bon, tu prépares quoi cet été? Barbecue, voyage, les deux?
Un peu de tout, barbecue, voyage, je dois descendre dans le sud de la France.
Ouais.
Je dois remonter, j'ai un périple à faire, au Lyon, je dois aller à Auxerre, tout ça parce que...
Tu me dis ça comme si c'était une corvée.
C'est pas une corvée en soi, puisqu'il y a une part de vacances, une part où je vais voir des membres de la famille, une part où je vais voir des amis, donc oui. Tout ça c'est très très bien. C'est simplement que ça fait beaucoup de route, c'est juste ça.
Tu parles comme si tu bossais, mais non, on est d'accord que tu ne travailles plus.
Si, hein? Je prépare des émissions, je travaille dur pour préparer ces émissions.
C'est du travail ça, tu penses?
Ouais.
Bon, d'accord.
Des fois j'ai un calendrier tellement chargé que je me dis, genre, mais très bien à travailler.
Tu penseras à me demander une augmentation?
Oui, d'accord, hein? Ouais.
Si 10-20% sur le.
Oui, bah, tarif 20% habituel. De zéro, c'est bon.
Ouais,
pour faire calculer.
On va rappeler ça aux gens parce que c'est vrai que de l'autre côté du poste, ils savent pas comment on fonctionne, mais c'est une émission totalement bénévole. Enfin, la radio, voilà, quand tu veux faire de la radio maintenant, tu payes pour faire de la radio.
Oui.
tu cotises, tu payes ton essence pour te déplacer, les places de concert, tout ça. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour prendre du plaisir. Là, quand on aime, on compte pas. C'est quand même n'importe quelle passion. À la limite, comme quand tu es musicien, que tu voyages dans une voiture à 500 balles avec 5000 balles de matos pour gagner 50 balles la soirée, quoi.
J'ai mon saxophoniste qui a une phrase rigolote là-dessus. Il dit, quand il est avec le groupe Soulman, et quand on nous demande pour un concert, on demande nos tarifs. Et Daniel me dit, je vais annoncer le tarif. Donc on a un tarif précis. Et il dit, mais tu leur dis qu'on est prêt à payer pour venir jouer.
Hein. Oui, voilà. Ça, c'est très, très commercial. Les Beatles, Beatles Song Story, c'est les Beatles. Et là, tu nous ramènes dans l'un des derniers albums des Beatles, Éternel Débat.
Non, il n'y a pas de débat. Non. C'est le dernier album des Beatles. On ne peut pas considérer que Let It Be soit le dernier album parce qu'il a été vendu le dernier. Pour moi, ce qui compte pour un album, c'est sa conception dans
donc
le temps.
Donc c'est Abbey Road.
Donc c'est Abbey Road, et bien le dernier album des Beatles, même s'il est sorti dans les bacs avant Let It Be. Voilà. Enfin, dans Abbey Road, il y a énormément de chansons qui sont le fruit de chansons qui traînaient déjà. Alors quelquefois, tu sais, les Beatles, ils peuvent ressortir pour un album comme dans Let It Be, ils vont sortir une chanson qu'ils ont composée en 1962.
Hein. Ouais, ouais. Mais ils peuvent même récupérer des textes qui ont été écrits en 1603.
Et par exemple.
Hein, c'est le cas de la chanson qui nous intéresse.
Absolument. Donc dans Abbey Road, il y a énormément de chansons qui étaient le fruit de réflexions et de débuts de travail à l'époque du double blanc et du projet Get Back avorté.
Alors on est sur un titre qui s'appelle Golden Slumbers.
Once there was a way to get back homeward.
Pour les non-anglophones, ça veut dire...
Songe d'or,
sommeil doré.
Sommeil doré, oui. Songe d'or, oui.
Donc, c'est pas une chanson avec beaucoup de texte, hein, c'est quelque chose de poétique, certes, mais il y a une relative simplicité dans tout ça.
Oui, comme toujours, hein, chez Paul McCartney, et qui défend totalement ce parti pris. Donc, il est sur l'album Abbey Road, donc chanson de Paul McCartney sortie en 69, hein, donc c'est une chanson de Paul. Hein. De toute façon, à cette époque, quand ils vont commencer à travailler ce qu'on appellera plus tard le medley, John était malade, et donc il était encore en convalescence. Il était peu présent au départ. Et
tu nous rappelles ce que c'est le medley? Parce que c'est vrai qu'il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'auditeur qui n'a pas écouté non plus tous les Beatles à fond. Un medley, donc c'est une série de chansons comme ça qui sont collées de façon... est-ce que c'est de façon naturelle? Est-ce que c'est de façon artificielle? Comment ils ont composé leur truc?
En fait, le medley qui se trouve, donc, qui est devenu célèbre, hein, le medley de la seconde phase de l'album Abbey Road est devenu très célèbre. Il commence avec Because pour finir sur The End. Ce qui est intéressant dans ce medley, c'est que tu as deux façons d'entrevoir le medley. Par exemple, tu vas avoir des gens qui vont avoir une série de chansons, une dizaine de chansons par exemple, mais qui veulent pas reprendre intégralement lors de concerts et qui vont en faire des bouts, donc ils vont s'arranger pour que on va avoir une espèce de mix de toutes les chansons qu'ils veulent mettre dans ce qu'on appellera un medley en Angleterre et ce qu'on appelle un pot-pourri en France. Ça c'est souvent le cas, c'est souvent en concert, c'est assez sympa.
D'ailleurs avec le Soulman vous faites un petit medley.
On fait un medley Beatles d'ailleurs, tout à fait. Mais en fait ce qui se passe c'est que le medley d'Abbey Road ne répond pas tout à fait à cette définition dans la mesure où ce ne sont pas des chansons existantes qu'on a assemblées ensemble, mais on a travaillé sur des chansons pour les attacher ensemble. Alors bien souvent, il faut se le dire, c'était des chansons qui n'étaient peut-être pas forcément abouties.
Voilà, c'est ça que j'allais te demander.
Donc on va coller les bouts ensemble.
Est-ce qu'en faisant un petit peu de science-fiction, est-ce qu'on peut imaginer que chaque morceau, y compris ce Golden Slumbers et puis d'autres, aurait pu donner lieu à des morceaux de 4 minutes avec solo de guitare, des grilles de chants supplémentaires?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, bien sûr.
Et pourquoi est-ce que des gens comme Paul McCartney et Ringo Starr, qui sont toujours de ce monde, ne s'y sont pas attelés? Et s'ils l'ont fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas été publié?
Parce que d'abord ça n'a pas été fait. Il n'existe pas de, par exemple, de Golden Slumber, hein, une version qui serait toute seule et complète. Déjà, dans Golden Slumber, comme je te l'ai dit, McCartney l'avait déjà anticipé comme deux chansons accrochées. Hein, c'est-à-dire vraiment, sur les documents de travail des studios d'Abbey Road, on voit cette chanson-là écrite sous le titre Golden Slumber, Carrie That Way. Donc ils sont vraiment collés. À l'instar de ce qu'on a pu trouver dans Sgt. Papers avec Die in a Life, qui est l'assemblage d'une chanson de Paul et d'une chanson de John. Voilà. Mais comme je pense que ce qui fait la qualité de ce medley, c'est qu'il a été envisagé dès le départ, pratiquement, comme un medley.
Oui, c'est-à-dire que c'était déjà une fin.
Voilà. Et donc, du coup, les enchaînements ont été travaillés. Alors, ça se travaille de manière rythmique, de manière de tonalité. Il est drôlement bien fait, ce medley.
Ça, bah oui, ça, ça paraît de façon complètement naturelle. Enfin, la toute première fois que j'ai écouté ça, je pense que c'était à peu près à sa sortie. Et pour moi, c'était un morceau long. Voilà. Oui, mais c'était le même morceau, avec plein de trucs différents. Mais la notion de medley, quand tu as 6 ans, c'était un petit peu étranger. Mais ceci dit, voilà, c'est quand même le fruit de plusieurs chefs-d'œuvre possibles. Et encore une fois, voilà, ça pourrait être une piste pour des passionnés de Beatles, comme toi, par exemple.
Mais en fait, ce medley, est comme du coup, est assez long, puisque c'est l'assemblage de toutes ces chansons demande un certain temps. Ce qui est amusant, je crois l'avoir déjà signifié, mais je peux le resignifier pour les auditeurs, c'est que ce medley donc finit la phase B de l'album The Road. Mmh. Et donc, la dernière chanson du medley s'appelle The End, donc la fin. Et donc, c'est assez marrant de voir que la dernière chanson, puisque c'est le dernier enregistrement mis sur vinyle des Beatles, s'appelle La fin. Mmh. Hein. Et donc, c'est la dernière phase, dernière chanson, hop, la fin. Avec, je l'avais précisé quand on a fait ce morceau-là, la seule fois où Ringo Starr fera un petit solo de batterie, un mini solo de batterie. Il est à noter aussi que, pour l'anecdote, sur l'album Abbey Road, t'as un petit blanc après, t'as le premier quasiment morceau caché de l'histoire, puisque au bout de quelques secondes, tu entends un nouveau morceau qui s'appelle Her Majesty, chanté par Paul McCartney. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Oh yeah. Someday I'm gonna make her mine. C'est marrant, on a un peu l'impression que McCartney chantant tout seul un petit truc à la fin, ça annonce sa future carrière de post-Beatles, hein, qui sera quand même la carrière la plus prolique hein, des musiciens des Beatles. N'oublions pas quand même, je le dis toujours parce que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup rappeler que George n'était pas un sous-fifre, que George sortira un triple album après, et qui est quand même assez génial.
Ça serait marrant de poser la question à Paul, si c'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler de ses paroles, ce fameux poème, oui. Golden Slumbers, Jackie?
Absolument.
Et puis, est-ce qu'avant d'en parler, est-ce qu'on pourrait pas l'écouter? Pas le morceau des Beatles, mais le poème en lui-même.
Le poème en lui-même?
Allez.
Roule ma poule, j'ai envie de dire.
Golden slumbers, kiss your eyes. Smiles awake you when you rise. Sleep, pretty wantons, do not cry, and I will sing a lullaby. Rock them, lullaby. Care is heavy, therefore sleep you. You are care, and care must keep you. Sleep, pretty wantons, do not cry, and I will sing a lullaby.
Voilà Jackie, c'est un extrême, il y avait presque tout en fait. Hein. Et donc ce texte date de 1603 et il est signé d'un certain Thomas Dekker.
Thomas Dekker, oui. Hein, je pense que McCartney a repris l'essentiel des paroles à 80%.
Il en a changé un petit peu.
Et il en a rajouté quelques-unes dont je vais te donner l'essence.
Ah, allons-y.
Donc pour en revenir à l'enregistrement même, donc 30-31 juillet, 15 août, Abbey Road, 2, 3 et 4 juillet aussi, ouais, j'ai oublié. Et nombre de prises 17.
Quand même.
Ah oui, quand même. Hein. Donc George Martin à la production. C'est important de dire George Martin à la production parce que après l'aventure du double blanc, il y a eu les titres qui a été fait, il y avait la mésentente à arriver, la séparation à arriver, et puis Paul McCartney avait dit à John, on peut pas rester là-dessus, faisons un album comme on faisait autrefois. Et donc ils ont proposé à George Martin, et George Martin, ok, mais c'est moi qui suis aux manettes. Hein.
Oui.
Ouais, on arrête les conneries, c'est moi qui suis aux manettes. Enfin, les conneries, ça a quand même produit des belles choses, mais enfin, grosso modo, ils ont voulu revenir à ce qu'ils faisaient, comme, la façon dont ils travaillaient autrefois. Donc la production de George Martin est quand même extrêmement importante là-dedans. Là, Ingénieur du son Phil McDonald, Geoff Emerick, hein, c'est à peu près les mêmes protagonistes que d'habitude. Sur les instruments, les 4 Beatles sont à leur instrument de prédilection, mais on a quand même encore ici un petit doute, mais là, moins de doute.
Par rapport à la basse.
C'est plutôt George Harrison qui jouera de la basse.
Ouais.
Voilà. Et il faut rajouter là-dessus, attention à la liste, 12 violons, 4 altos, 4 violoncelles, une contrebasse, 4 cordes, 3 trompettes, un trombone et un trombone basse.
Et un raton laveur.
Et voilà. Alors, pour en revenir à l'histoire de cette chanson, le père de Paul McCartney s'était remarié avec une femme qui avait déjà une fille qui s'appelait Ruth et qui jouait du piano.
Mmh.
Paul avait pris l'habitude de jeter un œil dans le tabouret du piano où l'on rangeait les partitions. C'est là qu'il découvre un vieil air de l'époque victorienne dont nous parlions tout à l'heure, composé d'un poème de l'écrivain Thomas Dekker. Et McCartney dit « Avant l'époque des disques, le seul moyen d'entendre des nouvelles chansons était que quelqu'un déchiffre les partitions
oui.
et les joue sur le piano familial. »
Sauf que Paul McCartney ne savait pas lire la musique.
Et non. Jim, le père de Paul, était le pianiste de la famille. Paul dit « Ce qui est drôle, c'est que papa... » avait jeté ce piano dans un magasin de musique qui s'appelait le Names North and Music Store à Everton, qui était tenu par un certain Harry Epstein, qui n'était autre que le papa du futur manager des Beatles, Brian Epstein.
Voilà.
Donc la boucle est bouclée. Donc c'est sur ce piano que Paul composera When I'm 64 par exemple.
Mm-hmm.
D'accord. Les paroles de Golden Slumber sont beaucoup plus à Paul. Il a improvisé une mélodie pour elle. On peut dire voler ou sampler, parce que en fait, comme tu le disais tout à l'heure, Paul ne déchiffrant pas la musique, il pouvait pas chanter la chanson, mais par contre les paroles lui ont plu, donc il a fait sa propre mélodie,
ouais.
ce qui a donné Golden Slumber. Sur l'album Abbey Road, le départ de Golden Slumber a été conçu pour être lié à Carrie's Hathaway.
Mm-hmm.
Donc là, je pense que quand on l'a fait écouter, il faut peut-être écouter les deux, c'est possible, parce que l'enchaînement est,
oui,
est
j'en,
magnifique.
J'en parlerai au monteur.
T'en parleras au monteur.
Un petit oignon, tu vois.
Ouais, d'accord, ouais. ok. Tu le connais ?
Oui, ouais, écoute, ouais, c'est un ami, ça tombe bien.
Oh bah ça tombe bien. Donc Paul jouait toujours les deux morceaux l'un à l'autre, bien avant la conception du medley.
Mmh.
Lors des enregistrements, chacun se demande toujours comment John va réagir vis-à-vis du medley. Parce qu'ils ont décidé de faire ce medley dans les studios d'Abbey Road, alors que je te l'ai peut-être précisé tout à l'heure, John était malade et qu'il n'était pas là encore.
Il avait subi un accident de voiture, il est arrivé 5-6 jours après.
Il était convalescent, absolument, ouais. voilà, c'est ça. Donc, alors là, je vais citer Geoff Emerick qui dit moi, il dit personne n'est disposé à se laisser imposer sa loi comme il l'a fait sur le double blanc.
D'accord.
À propos de John Lennon. quand Paul écrit cette chanson, il était chez son père. Ça, c'est des choses qui font penser. Ce que je vais te dire, là, ce qui me font penser, on revient encore un peu à l'histoire de Rocky Raccoon.
Rocky,
je parlais de l'enfance. Je pense que c'est pas tout à fait le hasard que j'ai une passion à la fois pour les Beatles et puis une sorte de quelque chose d'assez trouble que je ressens vis-à-vis de Paul McCartney. Quand je lis souvent ses propos, les choses qu'il dit sur la vie, sur les choses, sur la nature.
Tu t'identifies.
Il y a des choses. Alors, ma femme a tendance à me dire oui, mais tu l'adores tellement, c'est pour ça, mais bon. Je sais pas. Bon, enfin, quoi, c'est comme ça. Hein.
Je crois que tu vas passer sur le canapé bientôt.
Mais c'est possible. Hein oui. Moi, si c'est pour écouter du Beatles, c'est
pas que.
J'écoute pas le psy, mais passez-moi à Beirut. Alors donc, quand Paul a écrit cette chanson, il était chez son père. Ça fait longtemps qu'il n'était pas rentré à Liverpool, chez lui. Alors, c'était pas tout à fait la même maison, parce qu'à partir du moment où Paul avait gagné un peu d'argent, il avait acheté une maison pour son père. Mais il était quand même à Liverpool. Et c'est donc ce qui lui a fait rajouter dans les paroles de la comptine « When there was a way to get back homeward, when there was a way to get back home. Mm-hmm. » C'est-à-dire qu'en fait, il était une fois un chemin pour rentrer chez soi, il était une fois un chemin pour rentrer à la maison.
Oui.
Ça, c'est les paroles qu'il a rajoutées.
« Once there was a way to get back homeward. » Once there was a way get back home.
Et Paul dira, c'est bon de me dire que mon père a pu entendre cette chanson. Il devait mourir 7 ans plus tard, son papa. Il aura vécu assez longtemps pour savoir quelle profonde influence elle avait eue sur moi. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent, pas que chez Paul McCartney, hein, comme John et Paul sont pratiquement les deux qui écrivent le plus. On trouve ça aussi chez John, et on en revient à mon histoire de blues, c'est-à-dire on y met leurs émotions et des choses qui comptent
oui,
pour eux.
C'est ce que tu disais quand on avait passé Your Blues la dernière fois.
Voilà. Et quand Paul décide de mettre cette chanson, il a apprécié les paroles, il en a fait une chanson, mais au travers de ce qu'il dit, on sent qu'en arrière-pensée, il avait aussi une petite envie de rendre hommage à son père qui chantait tout un tas de chansons à la maison. Celle dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire ces vieilles chansons du patrimoine anglais, et qui fait que ça a un peu forgé leur culture musicale, tu vois. Et d'ailleurs, il le dit, puisqu'il est très heureux que son père ait pu écouter cette chanson qu'il avait faite à partir d'une des comptines qu'il devait jouer à la maison. Voilà.
Once there was a way to get back homeward. Once once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. I will sing a lullaby. We'll be right back.
y a une petite anecdote qui est rigolote, une discussion entre les trois Beatles survivants, ça remonte à 1994 lors de l'élaboration des Beatles Anthology. Il y a Paul McCartney qui, en parlant de cette chanson précisément, qui dit ça c'est ma chanson, je l'ai composée à partir d'une vieille berceuse, j'ai écrit ma propre mélodie. Et là il y a George Harrison qui intervient et qui demande mais sur quel album était ce morceau? Et George Martin qui était à côté dit bah, Abbey Road. Et là Ringo Starr qui ne perd pas un trait d'humour dit George Harrison, le grand spécialiste des Beatles. Et là tout le monde se fend la gueule. Et George Harrison continue dans les trous de mémoire et dit mais qui joue de la basse? Tu sais, ça doit être Paul, il a tendance à vouloir tout faire. Et George Martin, non, tu vois, c'est sur deux pistes. La basse est enregistrée en même temps. Et George Harrison dit ah bon? Alors c'est peut-être moi. Ou alors c'est John.
Alors si c'est sur deux pistes, c'est sûr que c'est pas Paul. C'est
donc on comptait pas tellement sur George Harrison pour écrire la biographie des Beatles. Hein.
Puisque tu parles d'anthologie, il y a aussi une très belle anecdote de fin d'anthologie. Quand ça se termine, ils sont tous les trois assis sur une pelouse. George est au ukulélé, McCartney à sa droite, Ringo Starr à sa gauche. Ils sont en train de chanter une petite chanson. Alors, ils mènent le ukulélé, puis ils chantent en tapant dans les mains. Tu sens que c'est hyper joyeux, que... Ouais. Tu sens que ces types-là s'adorent. Ça se voit, ça transperce. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas se tromper là-dessus. Et puis, il va y avoir une petite réflexion sur Clandestine Park, le dernier concert des Beatles à San Francisco. Et puis, à ce moment-là, il y a un moment un petit peu suspendu. Et c'est-à-dire, ils se taisent tous les trois. La caméra est toujours en train de les filmer. Petit moment suspendu. Et Ringo Starr va dire une phrase du genre « J'adore être avec vous, les gars. Ah. » « J'adore jouer avec vous. » Et il y a encore un petit moment suspendu, et Paul lui tripote l'oreille en lui disant « Petit canaillou, va !» Enfin, tu vois, ça donne quand même l'idée de ce que ces mecs-là, de ce que ces mecs-là s'aimaient, tu vois. Parce que ça, c'est pas des phrases de businessman, ça, hein, tu vois.
On est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Côté covers, t'avais le choix, là, encore, c'était absolument...
Oui. Elle a été reprise beaucoup,
ouais. Pléthorique, Claude Lansambers. Donc, t'aurais pu prendre la version du medley de Gaël Busvelt, t'en as déjà parlé de ça, hein.
Oui,
ça,
oui.
C'est un truc vraiment sympa à écouter. J'ai et c'est enregistré, justement, au studio Abbey Road.
J'ai voulu faire un clin d'œil plutôt pour Phil Collins, parce que j'adore Phil Collins.
Oui, on sait, parce que t'as déjà repris du Phil Collins dans ses émissions.
Et Phil Collins est très lié aux Beatles, pour différentes raisons, y compris une mauvaise, puisque je crois qu'une fois, il a dû, pour une histoire vague de... J'ai plus en tête, mais d'autographe et de sa femme, je sais pas, c'est un peu fâché avec McCartney, une petite brouille. Mais bon, grosso modo...
Les histoires d'autographe, ça peut aller très très loin, hein, quand même, à 8 décembre 1980.
Oui.
Hein, tu connais la suite, malheureusement.
Ouais. Mais alors, c'est un grand admirateur des Beatles, et il y a aussi une chose que j'aime dans la reprise de Phil Collins, c'est que non seulement il la chante, mais c'est aussi lui qui va jouer la batterie.
Ouais.
Donc c'est intéressant. Pour l'anecdote, sache que Phil Collins avait démarré tout jeune une carrière un peu tous azimuts de saltimbanque, dont acteur. Et donc, il sera crédité, puis décrédité, je sais pas comment on dit, sur le film Hard and Ice des Beatles, où il avait un rôle, il avait postulé pour un rôle d'adolescent. Et a priori, il avait été filmé dans les adolescents qui crient et qui applaudissent lors du concert télévisé. Ça a dû être coupé au montage, donc c'est pour ça qu'il est plus crédité
au film. Il aurait pu être dedans.
Mais il aurait pu être dedans. Même. Je voulais dire aussi autre chose à propos des covers eux-mêmes, parce que j'ai, en préparant cette émission, je suis tombé sur un petit... truc qu'avait écrit McCartney à propos des covers. C'est Paul qui parle, hein, ouvrez les guillemets. Les gens me demandent souvent si ça me dérange que l'on fasse des versions différentes de mes chansons ou si cela m'embête que le sens original soit déformé. Je leur dis toujours non. Au contraire, j'adore entendre une interprétation d'une de mes chansons. Qu'une chanson compte pour quelqu'un au point qu'il souhaite en faire une reprise est plutôt un compliment pour moi. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très ouvert et en fait, il précise qu'il adore vraiment entendre de ses chansons en reprise, même si elles sont plus ou moins déformées.
Mais ça, c'est normal, c'est flatteur. Dans les interviews, ça transparaît de temps en temps. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit à un artiste, tiens, il y a un tel qui a repris ta chanson, c'est tout de suite considéré comme un honneur, même.
Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back. And I will sing a lullaby. Back home.
once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Boy, you're gone.
Donc le cover Phil Collins. Et puis pour finir sur cette chanson, là c'est plus personnel, elle a fait partie avec j'avais trois chansons pour endormir mes enfants quand ils étaient gamins. Il y avait Golden Slumber, je supprimais Carrie Zatoué pour pas qu'une fois qu'ils dorment on les réveille.
Oui.
Il y avait Cry, Baby Cry, et puis il y avait aussi Good Night. Alors, Good Night pour endormir un gamin, parfait hein.
Good Night,
ouais, Good Night, très belle chanson de John, magnifique chanson de John, voilà.
Merci Jackie, c'était le 58e numéro de Beatles Song Story.
C'est fou, quoi.
Hein, 58. Ouais. Et on va se retrouver à la rentrée, on va laisser filer l'été tranquillement. On se retrouve à la rentrée. Hein. Tu penseras tailler tes crayons, mettre tout dans la trousse comme il faut. Mmh. Et puis, bel été à toi.
Bel été à toi aussi.
Merci, salut.
Ciao Marco.
C'était Jackie Emery pour Golden Slumbers, extrait bien sûr dans Abbey Road de ce fameux medley, avec quelques extraits de ce medley, The End, et puis Her Majesty qui clôturait vraiment le Abbey Road, un morceau caché comme il vous l'expliquait. Thomas Dekker et Cradle Song, Golden Slumbers, on est en 1603, réenregistré bien sûr en 2021 pour vous. Et puis bien sûr Golden Slumbers, Carry That Way et The End, les trois morceaux indissociables de la fin de ce medley par The Beatles et Phil Collins. On retrouvera le prochain numéro de Beatles Song Story par Jackie Emery dans le numéro de rentrée le 6 septembre. Voici les incontournables.
Oh, yeah. What can a man do?
Mama got mad at Papa. Cut it in brain, no coffee.
Les incontournables avec aujourd'hui Sandra Sanonère qui nous propose de revenir en 1992. On est chez Reprise Records, un album qui s'est énormément vendu à l'époque, le Unplugged de Eric Clapton. Voici Rolling and Tumbling.
We'll be right back.
Rolling and Tumbling, Eric Clapton sur l'album Unplugged en 92. C'est bientôt la fin de cette première heure du numéro 1286 de Sweet Home Chicago. On va revenir sur California Trap, le disque du mois. Andrew Duncanson et Michael Peloquin, ça s'appelle Next Life.
Rusty screens from cold sweats, blood and tears on the guitar frets. Take a drink to the blood, don't chase it back with thoughts of love. I'll wear a mask. The next life will be the best. Be the best. Turned out to be untrue. If I find, oh, what's haunting me, what's my purpose, oh, what will I be? Life will be the best. Be the best. The next life, you know, the next life will be the best. Will be the best. Oh, yeah. The next life.
Next Life, Andrew Duncanson avec Michael Peloquin. C'est ainsi que se termine la première heure. On se retrouve en deuxième heure tout à l'heure avec Coco Montoya, notre invité. À tout de suite.
Come on, baby, don't you want?